Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle série dans la Halakhot qui s'appelle Ben Adam Lachavero. Je pense que ça s'appelle l'épisode de société. Comment vivre en société? Il y a plusieurs thèmes qu'on va aborder si Dieu veut pour les prochaines semaines. Et ça sera, ça sera sur une Torah de vie. On a 6 cours dessus. Après, on aura tout ce qui est vie de société et après tout ce qui a les intérêts. Quand on parle de Torah de vie, on va voir aujourd'hui le premier chapitre qui vient et qui nous parle, par exemple, quelles sont les lois, quelles sont les halakhot que la Torah nous ordonne le devoir de tout faire pour éviter les dangers. Ne pas se mettre en danger, et comment éviter les dangers? Éviter les dangers, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie en général. Et oui, même dans ça, la halakha nous dit quoi faire. Après, on verra comment le devoir de faire attention à la santé. Et ça tombe bien, puisque ce sera la semaine prochaine. La semaine d'après, qu'on parlera aussi dans Jaila et le cours sur rapport avec la santé. Après, on verra le devoir de sauver des vies, don d'organes, respect aux personnes plus âgées, rabbinim, etc. Et par rapport au rapport que nous avons avec les animaux. Ça, c'est tout ce qui est dans ce qu'on appelle les lois de société. Mitzvot, chez Madame la Chavero. Donc aujourd'hui, on commence avec le premier chapitre qui est qu'est-ce que la Torah nous ordonne, comment on a le devoir de faire attention à différents dangers. Première règle, on a une obligation de la Torah de faire attention à sa santé, à la vie, et de ne pas se mettre en danger volontairement. D'où est la base de cette mitzvah? Venishmatem ma'ad nafshatechem. Venishmatem ma'ad nafshatechem, c'est un pasuk dans le Chumash Va'etranan, Chumash Deutéronome, chapitre 4, verset 9 à 15. Faites attention à votre santé. Alors, une des bases de cette histoire, c'est bien sûr, la Gemara nous raconte, avec qu'il y avait un juif, la Gemara Brachot, page 32, qui priait dans la rue, et il y a un roi qui est venu, il a salué, il était en train de faire la Amida, il a salué, il n'a pas répondu. Il a attendu jusqu'à qu'il termine. Il a dit, espèce d'idiot, c'est écrit dans ta Torah, faites attention à ta santé. Et quand je t'ai salué, tu m'as pas répondu, j'aurais pu te couper la tête avec mon épée. Et qui t'aurait défendu après? Et là, il lui a dit, alors attends, jusqu'à ce que j'explique, etc. Bref, de là, la gloire est déduite, de là, on comprend que oui, la Torah nous dit qu'on a le devoir de faire attention à ne pas se mettre en danger. Que le Chachamim vient t'explique, dans le Shulchan Aruch, Siman 427, que la vie est un cadeau que Dieu nous a donné. Pour faire avec ça le bien et faire sa volonté. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'autonomie sur la vie. On doit faire attention à la vie, on n'a pas le droit de se mettre en danger. À tel point que la Torah, elle rend et elle sanctifie la vie, qu'on a le devoir de faire attention à sa santé et faire attention à la vie, ça repousse la majorité des mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça, par exemple, quelqu'un qui pense qu'il a un danger s'il va jeûner le jour de Kippour, il a le devoir de manger, comme c'est écrit dans la Gemara Yoma, page 82, Shulchan Aruch Siman 618, bien sûr, tout ça. On l'a vu dans les cours précédents qu'on peut revoir sur Torah.fr et bien sûr en parlant avec un rav d'abord. Il y a aussi un terme qu'on voit plusieurs fois dans la Torah qui est Chamira Sakanta Meisua, qui veut dire c'est plus grave, c'est plus rigoureux un danger qu'une interdiction. Qui veut dire qu'il y a des règles dans lesquelles on a des doutes par rapport à est-ce qu'on peut transgresser une interdiction ou pas. Maintenant, moi, les Chachamim m'ont dit que quand tu as un doute par rapport à est-ce que tu te mets en danger ou pas, on ne prend pas le doute, on ne prend pas le risque de te mettre en danger. Et donc, dans la halakha bête, on voit par exemple que tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation de prendre un risque inconsidéré. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un risque inconsidéré? C'est par exemple un exemple d'aller te baigner dans une mer où il y a des tempêtes, où il y a un drapeau noir. Où on te dit par exemple qu'aujourd'hui la baignade est interdite. Et toi tu veux jouer le malin comme beaucoup parmi eux, beaucoup d'Israéliens qui ont compris juste où c'est écrit qu'il faut interdire, c'est là-bas qu'il faut y aller. Attends, c'est une interdiction, pas juste que tu joues avec ta vie, c'est une interdiction de la Torah. Ou bien aller par exemple aller se promener de manière dangereuse, que ce soit quand il y a des tempêtes, que ce soit dans les montagnes ou dans des chemins qui ne sont pas tracés, etc. Rentrer dans un bâtiment, que tu sais que le bâtiment risque de tomber, la chat est interdit aussi. Pareil, tu n'as pas le droit de manipuler des matériaux qui sont dangereux. Sans combinaison, sans adaptation, sans avoir l'expérience, ou bien traverser une route où tu as des routes où il n'y a pas de stop, où il n'y a pas de feu rouge ou quoi que ce soit. Ou par exemple, ça rentre dans ce critère aussi de conduire une voiture avec des défaillances sécuritaires. Par exemple, tu n'as pas vérifié les freins, ou tu n'as pas vérifié si la direction qui marche. Ou bien que tu pourrais pas seulement toi te mettre en danger ou éventuellement aussi mettre en danger les autres. Alors on rentre dans ça, tu peux entrer dans un dossier très intéressant qui est est-ce qu'on a le droit d'aller sortir à la chasse ou est-ce que tu as le droit d'aller voyager sur la lune? Dans le Shuk Nadav et Yudah, il te demandait une question à la chose suivante. Quelqu'un que Dieu lui a donné beaucoup d'argent et qu'il a une grande propriété, et il y a beaucoup de forêts. Et dans cette forêt, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui passent. Est-ce qu'il a le droit lui-même d'aller tirer à la chasse, d'aller chasser ces animaux, ou bien un juif n'a pas le droit d'aller chasser? Le Nodav Yehuda, il parle de le sujet en train d'abord qu'il y a un discours du Rabbi merveilleux contre la chasse dans les années 70. Le Rabbi parle tellement contre, c'est hallucinant que quelqu'un, le seul hobby, le seul sport qu'il cherche à faire, c'est d'aller juste s'amuser à tirer sur la tête d'un animal et se tirer par terre pour amener un trophée à la maison. Comment la vie dénonce cette cruauté? Mais là, le Nodav Yehuda parle du niveau halakhique, il te dit comme ça. Il fait, mais non, c'est très bien que tout celui qui va à la chasse, qui va chasser, il se met lui-même en danger, parce qu'il rentre parmi des troupeaux d'animaux sauvages. Et la Torah, elle te dit, Venishmaatem Adonafshatechem. Et on sait très bien que qui a tort à la Torah, elle a défini comme chasseur, et pas en bon terme, c'était Esav. Et la preuve, c'est que Esav lui-même a dit sur lui dans la Torah, Iné Anochi Olech Namut, maintenant je vais mourir. Je sais que je vais à la chasse, je sais que je me mets en danger. Et la Torah, elle te dit, le Nodav Yehuda, elle te dit, le verset, tu dois l'apprendre au sens simple. C'est-à-dire le fait de se mettre en danger tous les jours. Et ainsi, tiens, si le Rambam ben Nachmanit. Maintenant, si quelqu'un, il a décidé qu'il veut se mettre en danger et il veut aller chasser, il transgresse l'interdiction de Venishmaatem Adonafshatechem. Alors, sur ça, les questions qui viennent dans les responsables de nos jours, Mishnah Halakha te demande, est-ce que d'après la Halakha, il y a un empêchement d'aller sur la Lune? Et il a répondu en disant que tu te mets en danger soit du fait que tu vas sur la Lune, soit du fait que tu restes dans l'atmosphère, c'est pas quelque chose qui est fait pour n'importe quel être humain, c'est juste un jeu comme aujourd'hui, les gens qui n'ont rien à faire avec leur argent, etc. Il y a des situations dans lesquelles c'est un doute. Je ne suis pas sûr que je me mets en danger ou pas. Dans la lettre guillemets, par exemple, quelqu'un qui doit aller voyager pour des affaires dans un pays du tiers-monde. Un pays qu'on appelle un pays qui est sous-développé ou un pays qui est listé en carte rouge. Par exemple, qu'il y a des menaces terroristes sur ce pays ou bien d'antisémitisme dans ce pays. Est-ce que tu as le droit de prendre le risque ou tu n'as pas le droit de prendre le risque? La halakha, elle te dit, la réponse elle est qu'il faut agir de manière que si tu prends un risque considéré qui est accepté chez des gens considérés, ce n'est pas considéré que tu te mets tu risques ta vie. Par exemple, on sait très bien que ce n'est pas parce que c'est un pays du tiers-monde que personne ne va faire des affaires là-bas. Il y a des gens qui vont faire des affaires, ils sont protégés, ils ont des agents de sécurité, ils ne sortent pas dans certains endroits, ils ne vont pas faire attention à ne pas se faire kidnapper. Quand tu parles par exemple du Niger et tous ces pays-là, que tu as des businessmen du monde entier qui voyagent là-bas, mais qui savent que c'est des zones de risque, des zones dangereuses, des zones dans lesquelles il faut se protéger. Et donc la femme ne peut pas te dire qu'un comportement de telle manière, c'est forcément que tu te mets en danger de manière intolérable, et c'est pour ça que la femme le permet. Quand c'est un cas que la situation elle est grise, qu'on n'est pas clair, et qu'on ne sait pas forcément si oui ou non, il faut demander à l'arabe d'abord pour savoir, est-ce qu'on a le droit de se mettre dans tel danger ou pas? Ça, c'est numéro un. Alors, Haka te dit maintenant, regardons ce qui se passe dans la maison de chacun d'entre nous. On a le devoir aussi d'enlever les risques qui sont parfois, pas seulement des risques pour nous, mais des risques aussi pour les autres. Et c'est pas seulement à cause des autres, mais c'est à cause de soi-même. Parce que c'est la même règle. De la même manière que tu n'as pas le droit de te mettre en danger, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit qui pourrait éventuellement mettre en danger les autres. Et c'est pour ça que par exemple, tu n'as pas le droit de laisser chez toi dans la maison un puits dans la cour ouvert qui n'est pas bouché. Ce n'est pas forcément un puits. Ça peut être n'importe quelque chose qui peut être dangereux, que tu laisses par terre, que ce soit un marteau, que ce soit un couteau, ou quelque chose qu'un enfant il va pouvoir trouver, qu'il ne va pas savoir quoi faire avec, ou des allumettes, et qui pourra mettre un danger dans la maison, tu es responsable. Un arbre ou une barrière qui risque de tomber. Tu n'as pas le droit de laisser une chose pareille dans la maison. C'est encore une fois, c'est Shekhan Aour, Siman 382. Un morceau de mur qui risque de tomber. Et pas seulement ça. Dans ça, ça rentre. Et malheureusement, ce qui est malheureusement pas respecté dans beaucoup de cas, de ne pas construire une maison, une résidence, un bâtiment, sans avoir ce qu'on appelle, nous, le bureau de contrôle, sans avoir la sécurité derrière, sans avoir ceux qui vont dire, est-ce que tu as le droit de casser ce mur, pas le droit de casser ce mur, tu as le droit de faire telle ouverture, tu as le droit de faire telle ouverture. Et malheureusement, on s'est rendu compte, les dernières années en Israël, encore une fois, à combien de salles de mariage, etc., que les choses n'étaient pas faites aux normes, et le jour que tout marchait bien, le jour où tout marchait mal, que Dieu nous en préserve, il y a eu des dizaines de morts et de blessés, etc. Après, on s'est demandé, et alors ça n'avait pas été construit dans les normes. Tout ça, ça fait partie de la même à la fin. Pareil, des prises de courant qui sont découvertes, et que quelqu'un peut se mettre en jeu, ou des câbles qui sont découverts, ou bien de s'attacher de se brancher à des branchements de gaz, des branchements d'électricité non tolérés ou non permises. Pareil, c'est des choses qui peuvent mettre en danger, que Dieu nous en préserve, s'il y a d'eau pour ceux qui rentrent, etc. Si quelqu'un, il laisse les choses se faire et il ne se protège pas, pas seulement qu'il transgresse sur la première interdiction qu'on a dit, Venishmatem, Meod Nafshatechem, qui veut dire se protéger, mais il transgresse la deuxième interdiction que la Torah te dit dans le verset, dans Kitetse, chapitre 22, verset 8, Velotassim, Damim, Bebetecha, tu ne mettras pas du sang dans ta maison. Damim a deux sens. Damim, ça veut aussi dire le sens, la vie. Et l'intention, ça veut dire que tu as laissé chez toi des choses qui peuvent porter atteinte à la vie d'autrui. Et porter atteinte à la vie d'autrui, ça peut être aussi forcément de laisser des choses qu'un enfant ne peut pas faire attention et qu'à cause de ça, il peut mettre sa vie en danger. Même des choses qui, par exemple, ont, on va dire, des défaillances sécuritaires graves et qui peuvent mettre en danger, si tu vas les utiliser, tu as le devoir de faire attention. Je peux dire, pour l'instant, je n'utilise pas. Mais si tu vas l'utiliser, c'est risqué, c'est un danger. Par exemple, tu n'as pas le droit de laisser à la maison une échelle avec des marches qui ne tiennent pas bien ou une échelle qui risque de tomber. Parce que toi, tu es au courant qu'il y a un problème. Et celui qui n'est pas au courant risque de passer et la prendre. Et lui, il va avoir un problème. Ou bien, d'avoir une voiture qui a un problème avec les freins, que toi, tu es au courant qu'on va manipuler le problème et que quelqu'un d'autre ne sera pas au courant. Parce que tu pourrais éventuellement faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas au courant risque sa vie dedans. Dans ça, là, la chrétienne, c'est vraiment le même critère, bloquer un trottoir. Que tu obliges les gens qui marchent sur le trottoir d'aller sur la route à cause de toi et qu'ils n'ont pas d'endroit où aller à part le trottoir et qui mettent leur vie en danger. Même si la voiture en soi que tu as garée, c'est pas un danger, mais ça entraîne de manière indirecte la mettre en danger la vie d'autrui.
Oui, c'est ça.
Est-ce que parce que tout le monde fait, c'est pas ça qu'il faut faire?
Non.
Mais c'est la chrétienne qui sait. Je ne sais pas par rapport à ce que la chrétienne dit. La chassette, par exemple. Tu n'as pas le droit d'élever à la maison ou dans ta cour un chien enragé ou un chien dangereux, un chien d'attaque qui risque de mordre ou même s'il va faire peur aux gens qui passent là-bas. Celui qui va avoir un tel chien, il devrait bien l'attacher et il a le droit de le libérer seulement dans la cour et pas dans la maison et seulement la nuit quand les gens ne passent pas. Et l'idée, elle n'est pas protégée, c'est des voleurs qui viennent. Tu ne mets pas un chien pour chez toi à la maison. Et oui, malheureusement, combien de fois on a vu et on voit presque toutes les semaines, tous les mois dans les nouvelles avec des enfants qui sont fait mordre par des chiens, des patrons qui sont fait mordre ou tuer par des chiens, etc. Alors les gens te demandent la question, mais il n'y a pas de danger de vie ici. Au pire, c'est juste faire peur. Et la réponse, elle est que faire peur peut parfois faire avorter une femme ou perdre un enfant quand elle est enceinte, dont le tien. L'Agmara raconte cette histoire. L'Agmara raconte cette histoire dans deux endroits. L'Agmara Shabbat, page 63b, l'Agmara Bava Kama, page 83.1. On l'a vu récemment avec le Daf Yomi qu'on apprend tous les jours. Cette femme qui est une fois venue pétrir du pain dans une des maisons, il y a le chien du patron qui l'a sauté sur elle, qui l'a aboyé. Elle a eu tellement peur qu'elle a perdu son enfant. Alors le patron du chien lui a dit, n'aie pas peur, parce qu'on lui a enlevé ses dents qui mordent. Non, il risque pas de te mordre. Elle a dit, ce que tu as essayé de faire ne sert à rien, c'est comme si c'est des épines que tu as jetées entre des épines. En disant, l'enfant que j'avais, j'ai déjà perdu à cause de sa crainte et sa peur. Et de là, c'est la source, que même un chien qui ne mord pas, mais qui crie et qui fait peur, il est considéré comme mettre en danger la vie d'autrui. Et ça rentre dans les critères de ce qu'on vient de voir, « Volotassim damim bebetecha » Ça parle de laisser un danger chez toi à la maison. Alors maintenant, passons à ce qui se passe dans la rue. Dans la rue, parfois, tu as des poutres ou des poteaux d'électricité qui sont déchirés. Des fois, tu as une vieille voiture qui est juste garée et qui peut empêcher la circulation. Ce n'est pas ton devoir de t'occuper à enlever ce danger puisque ça appartient plus du domaine public. Mais si tu parles de quelque chose qui met en danger la vie de tout le monde et qu'il y a des chances que les gens qui passent à côté vont se mettre en danger, tout celui qui voit le danger, tu dois tout faire pour éviter ce danger. Ça rentre dans les critères de l'interdiction. L'autre a un mode, Aldam Reacha, tu n'as pas le droit de voir comment parfois tes proches ou ton ami va être en danger et tu fais comme si tu n'étais pas au courant. Alors, tête. À part le fait d'enlever les dangers qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui, comme on vient de voir, il y a une mitzvah dans la Torah de tout faire pour mettre une barrière autour du toit de la maison. On va tout de suite voir que ce n'est pas seulement le toit, pour éviter une situation dans laquelle les gens ils pourraient tomber, se blesser, voire mourir. D'où on le sait, la Torah te dit, « Si t'as maqué le gagacha, tu dois faire une barrière autour de ton toit. » Est-ce que de là j'apprends que je suis obligé d'avoir ce qu'on appelle des détecteurs de fumée ou d'avoir des extincteurs dans la maison? Ça rentre a priori dans le même critère. La Torah te dit qu'il faut mettre une barrière. La barrière est différente de ce qu'on appelle enlever tout ce qui pourrait mettre une personne en danger. Qu'est-ce qui est un danger? C'est quelque chose qui rend une personne en danger. Une barrière, c'est plutôt quelque chose qui protège. Une barrière, c'est quoi? Une barrière, c'est pour empêcher le danger. Alors la question, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, alors si c'est comme ça, est-ce que je dois forcément mettre un extincteur par exemple? ou bien est-ce que j'apprends que je dois mettre tous ces équipements qui existent pour éviter de me mettre en danger, ou bien de me sauver dans le cas où il y a un danger. Et regardons les différents cas. Le fait de pouvoir tomber d'un toit sans barrière, ça c'est forcément un danger. Je vais prendre dans les sacs, tiens. Tiens, je sais qui met dans les sacs. Alors, le fait de tomber d'un toit sans barrière, c'est forcément un danger. Maintenant, si c'est un danger qui est moins courant, est-ce que la Torah t'a demandé de s'assurer de ne pas tomber dans ce danger? Pour ça, il faut regarder chaque cas particulier, chaque cas séparément. Un toit qui n'a pas de barrière, on peut clairement le comparer à une échelle qui est bancale et qui va tomber. Après, on va rentrer dans quel toit tu rentres. Est-ce que dans tous les toits, tu es censé marcher? La majorité des maisons dans le monde, des toits, ce n'est pas les choses que les gens ne vont pas marcher sur les toits. Les toits, ils sont faits en général ou pour aller visiter les deux chemins, ce qu'on appelle ça, les différentes... ballons de chaud, de chauffe-eau, etc., ou les différentes machineries qui ne sont pas faites pour la norme. Donc, un normal ne va pas marcher là-bas. Mais quand tu as, par exemple, une maison qui n'a pas de détecteur de fumée, la maison en soi n'est pas un danger. C'est dans le cas où il y aura de la fumée et que tu n'es pas au courant, par ça que tu as un détecteur de fumée, ça peut aider. De là à dire que ça rentre dans les critères de la mitzvah de Maakeh, non. La Torah ne va pas t'obliger à mettre un détecteur de fumée dans chaque maison, même si aujourd'hui on te dit que c'est la norme et d'après l'assurance, c'est une obligation. Mais dire que ça rentre dans le critère de mitzvah de Maakeh, parce que si tu n'as pas un détecteur de fumée, la maison elle est en danger. La maison elle n'est pas en danger si elle n'a pas un détecteur de fumée. La fumée c'est un plus. S'il n'y a pas de fumée dans la maison, elle ne devrait pas avoir de problème avec un détecteur de fumée. Par contre, si tu as une entreprise qui a des produits qui sont des produits inflammables, pardon, où là le danger est beaucoup plus grave, et là c'est comme si vraiment tu es assis sur un tonneau d'explosifs, et que si tu n'as pas des détecteurs de fumée ou des détecteurs de feu, là c'est dangereux parce que tu sais que tu es avec des produits inflammables, que chaque pour un rien, tout peut s'enflammer. Là, ça rentre dans le critère de la Torah que tu dois mettre une protection, que tu dois mettre des détecteurs de feu, des détecteurs de fumée pour se protéger. Deuxième cas, est-ce que tu dois mettre des barrières aux fenêtres? Et c'est le même problème qu'on a aujourd'hui, surtout avec les enfants, surtout dans les appartements, et pas seulement dans les appartements, mais même dans les maisons. Ou est-ce que tu as le devoir de mettre des barrières, des barreaux aux fenêtres pour s'assurer que les enfants ne peuvent pas sortir par la fenêtre, ne peuvent pas tomber de la fenêtre? Ou bien tu vas dire que non. Et là, la halakha débat sur ça. La Torah vient te dire que tu as le devoir de mettre une barrière dans le cas où tu crains de pouvoir tomber. Là, c'est quoi la crainte? La crainte, c'est qu'un enfant, il monte sur la chaise et que pour ça qu'il va grimper sur la chaise, il va pouvoir éventuellement escalader par la fenêtre. Est-ce que la fenêtre en soi est considérée un endroit dangereux? Non. Parce que quelqu'un doit faire attention à ses enfants qui ne grimpent pas. Mais la Torah n'a pas commencé à te dire que chaque fenêtre doit être totalement fermée, barricadée comme une prison, de peur qu'un enfant va monter. Ah, tu vas me dire, mais a priori, en général, les fenêtres ne sont pas jusqu'au parterre. Et c'est vrai que les fenêtres, en général, elles sont plus hautes que 80 cm. Et que ça, c'est la taille de la barrière que la Torah te demande. Que c'est quoi un maquet que la Torah te demande? La barrière, c'est de mettre 80 cm de protection. Donc si j'ai déjà 80 cm jusqu'à la fenêtre, pourquoi je vais mettre encore une barrière au-dessus de la fenêtre? Il y a déjà les 80 cm jusqu'à la fenêtre. Quoi, je vais m'inquiéter que demain, un enfant, il va prendre une chaise, il va se rapprocher de la fenêtre, il va monter sur une chaise, et de ça, c'est sans fin. Donc à ce moment-là, tu dois mettre une barrière à 2 mètres, 3 mètres, tu dois être totalement enfermé. Viens là, la Torah te dit, on ne peut pas comparer ça avec une échelle bancale. Que là, la Torah te dit clairement, l'otassi, un ami, bébé, terre, tu n'as pas le droit d'avoir du sang chez toi à la maison. Même s'il y a un danger, mais le fait que l'enfant, il n'est pas censé monter sur la chaise, et qu'en général, on essaie d'habituer les enfants à ne pas monter sur la chaise, pour ne pas se rapprocher de la fenêtre. On n'a pas cette obligation de mettre une barrière pour qu'un enfant ne passe pas à travers. De l'autre côté, quand tu as des maisons, et la majorité malheureusement des maisons où tu as des lits d'enfants, où tu as des chaises et des tables, on sait très bien que les enfants, ils aiment monter sur les chaises, ils aiment monter sur les tables. Et ça, c'est collé à la fenêtre. Et des lits qui sont collés à la fenêtre. Et comme je vois dans énormément de maisons, que ce soit des Velux ou quoi que ce soit, que pour un rien et pour un oui, un enfant peut très facilement ouvrir la fenêtre et passer à travers. Forcément, on a le devoir de fermer les fenêtres, pas seulement fermer la poignée, mais fermer avec une clé, comme on a aujourd'hui, ou bien mettre des élévateurs, ou bien mettre des clés à enlever la clé, ou bien mettre des volets, ou bien mettre des barrières de l'autre côté de la fenêtre, que si jamais un enfant il ouvre, il tombe pas. Et sinon, on est coupable. Pourquoi on est coupable? Parce qu'on n'a pas enlevé ce danger du fait que cet enfant il est monté, il a pu tomber. Donc ça rentre encore une fois dans le critère de ce qu'on vient de voir. Mais les poskim de l'alakha aujourd'hui te disent clairement que tout ce qu'on a parlé comme toit, c'est des toits qui sont utilisables. Qu'on a l'habitude de monter là-bas plusieurs fois, c'est pour faire des grillades, faire des barbecues, quoi, ce soir. Et que beaucoup de maisons, tu as aujourd'hui, qui utilisent les toits comme un endroit où on fait beaucoup de choses. Pas forcément un toit totalement fermé. Un toit que personne n'a accès là-bas, ou qu'on n'utilise pas. Comme la majorité des toits d'immeubles, par exemple, ou qu'on utilise ça juste pour mettre, comment on appelle ça, les climatiseurs ou bien les douches, mais ce n'est pas des choses qui sont faites pour fréquenter par des humains. On n'a pas le devoir de mettre là-bas une barrière. Mais tu vas à Kranet, tu vas à Brooklyn, tu vas dans beaucoup d'autres endroits, que beaucoup de toits en Israël aussi, qui sont utilisés pour faire des fêtes, pour faire des soirées, comme des terrasses. 100% qu'on doit faire, pas seulement qu'on doit faire une barrière, mais qu'on doit s'assurer que personne ne puisse tomber, que ce soit en montant ou en descendant, parce que même en montant, des fois, tu as des portes bizarres, c'est pas forcément des portes normales que quelqu'un peut avoir accès, et que parfois quelqu'un il est monté sur le toit, on fait toute une fête, et on a laissé le toit ouvert. Arrivons au problème qui se pose en Israël dans 90% des mariages que j'ai vus. Qu'aujourd'hui, les gens ils ont la folie de faire des choupotes autour de piscine. Pourquoi ? Non, pas. Comme ça, on pense que c'est très esthétique, c'est magnifique, c'est très beau, tout ce que tu veux. Ça arrive presque chaque mariage, volontairement ou involontairement, que tu as ou des adultes ou des enfants qui n'ont pas vu la piscine. Alors bien sûr, c'est toujours aujourd'hui, c'est très très beau, les gens ils prennent des photos et des selfies, tout le monde s'éclate de rire. Et que Dieu nous en préserve. À mise à part le fait qu'aujourd'hui c'est la norme et c'est la règle, tu n'as pas le droit de laisser une piscine ouverte sans aucune barrière autour, sans aucun grillage autour, sans aucune protection autour. Pourquoi mettre les gens dans un danger volontairement ? Qui est coupable ? Celui qui a organisé la fête, celui qui s'est marié, celui qui est à la salle, celui qui fait venir les invités. Et si on peut entrer dessus pendant une heure. Et la réalité, elle est que, en parlant, c'est 100% contre la halakha. Tu n'as pas le droit de faire en sorte d'amener des gens dans un endroit qui volontairement ils se mettent en danger. J'ai dit oui, mais les gens ils font attention. Alors comment tu expliques qu'un mariage sur deux, il y a quelque chose qui se passe ? Alors les gens ils s'éclatent de rire, ils sont tombés dans l'eau avec le costume, c'est magnifique. Mais pas tout le monde sait nager. Et pas tout le monde attend le danger. Et tu vois des enfants courir dans tous les sens. Et il n'y a aucune protection. Et halakhiquement parlant, c'est content. Alors ça, c'est le critère de ce qu'on vient de voir. Si t'as marqué la gagacha, quand tu dis faire une barrière à ton toit, c'est pas seulement à ton toit. C'est faire une barrière dans n'importe quel danger dans lequel il se trouve. Voilà, chez toi, à la maison, tu as déjà une protection. Pourquoi dans ces lieux publics, il n'y a pas de protection ? J'ai pas de réponse, mais l'halakha, elle est contre. Pareil, quand on dit par exemple avec une terrasse ou quand on parle d'un balcon, même quand c'est un balcon d'une mitzvah par exemple, on doit aussi faire une protection. Et là, on rentre dans tout ce qui est construit des soukottes. La même chose, c'est comme beaucoup de gens qui construisent des soukottes dans leur balcon, et que tout est beau et tout est rose, et qui ne pensent pas à la nation qui sont sur un balcon, il n'y a pas d'endroit où s'attraper. Et malheureusement, les dernières années, on a eu encore une fois combien de gens qui sont tombés en danger, qui sont tombés en train de construire des soukottes, donc ils n'ont pas fait attention, ils n'avaient pas sur quoi s'attraper. Et qu'encore une fois, si tu n'as pas une certaine protection, tu n'as pas mis une certaine barrière, un certain grillage, une certaine protection, tu mets la vie en danger, ta vie en danger, la vie en danger des autres. On trouve maintenant dans le troisième détail qui est mettre des barrières dans les escaliers. Beaucoup de maisons ont des escaliers. Et des escaliers que des fois, c'est des tourbillons, on appelle ça, c'est des, oui, des tourbillons, comme ça s'appelle. Ou bien des escaliers qui sont très très étroits en haut et très larges en bas. Ou bien les escaliers, puisque c'est très esthétique avec du marbre et tout ce que tu veux, que quand tu descends, il n'y a aucune marche, il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune rampe. Et combien de fois ça arrive que des gens ils ratent les marches ? Ils n'ont pas sur quoi s'attraper. Alors, mis à part le fait que les rampes ne sont pas seulement faites pour les handicapés, mais on parle des enfants. Combien de fois ça arrive que les enfants ils dégringolent des escaliers, qu'ils tombent des escaliers, qu'ils se fassent des bleus, et des fois des choses mille fois plus pires. Alors que la halakha te dit que ça devrait être protégé. Pas seulement être protégé, comme on dit, tiens, prouve d'avoir une maison, que tu as une barrière avant le début des escaliers, avant que les enfants puissent monter, mais sur les côtés. Et ça, c'est un devoir que tu vas dans beaucoup de maisons, avec ces cases. Pas des escaliers en bois, ou je veux dire, ou avec la moquette, ou qu'on va dire que si quelqu'un il tombe ou une chute d'un enfant, c'est pas si grave. C'est du marbre, c'est de la pierre, et qu'il n'y a aucune protection, parce que c'est très esthétique, c'est magnifique. Et de ça, tu rentres dans l'autre critère, dans les mikvot, même chose. Aujourd'hui, on fait de plus en plus des mikvot très esthétiques. Et plus quelqu'un fait un mikvot esthétique aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des escaliers sans rampe. Et une des choses que la halakha elle est contre, c'est qu'encore une fois, pas tout le monde a cette confiance en soi de pouvoir descendre dans l'eau sans s'attraper à quoi que ce soit. Et certaines personnes ont besoin d'avoir cette certaine stabilité, cette certaine tranquillité. Est-ce que tu as le droit d'avoir un endroit où quelqu'un il va descendre, monter sans pouvoir avoir de rampe ou sans protection tout autour ? Tout ça, ça rentre dans le même critère que la halakha vient, elle te dit, si tu as marqué le gagacha qui veut dire. Alors oui, c'est vrai que dans le sifri, c'est écrit. Le Sifri te dit, puisque la Torah a employé le terme « tu feras une protection à ton toit », je peux déduire que c'est seulement le toit et rien d'autre. D'où j'apprends que c'est toutes les autres choses, des grottes, des tunnels, des sillons, des fossés, tout ce que tu as dans la maison. On fait de ça une règle générale. Alors il te dit, pourquoi c'est écrit « gag » ? Pourquoi la Torah a pris le mot « toit » et pas le reste ? Alors il te dit, fais une protection à tout. La Sifri te répond, prête le keves. La Torah a voulu te dire que le keves, qui était la rampe qu'il y avait sur le temple, là, il n'y a pas besoin d'avoir de barrière. Pourquoi ? Et la halakha te dit que la rampe qu'il y avait sur le temple qui montait pour aller faire les sacrifices, c'était large de 16 amotes, 8 mètres. Quand tu as quelque chose qui est large de 8 mètres, en général, quand tu vas au milieu, il n'y a pas de risque que tu vas tomber. C'est d'abord, ce n'était pas fait pour tout le monde, c'est fait pour les kohanim. Mais quelqu'un normal, il doit le faire. Mais après, la halakha, c'est sûr que quand tu as des marches qui ne sont pas assez longues, et des marches qu'il n'y a pas où t'appuyer, tu dois forcément avoir quelque chose pour pouvoir s'appuyer. Et encore, on ne parle pas maintenant des personnes âgées. On parle de personnes tout court. Combien de fois ça arrive que juste tu n'as pas sur quoi t'attraper et tu risques de tomber. Quelle est la hauteur? On a dit la hauteur du maquet, la hauteur de la, du grillage, du, ça doit être 80 cm. D'après la halakha, dit Tfachim, on dit 80-90 cm. À tel point que la halakha fait attention à ça, c'est qu'il y a une bracha particulière qui doit être faite. On te dit que quelqu'un qui construit une maison, ce serait bien qu'il laisse cette partie pour lui, qu'il ne laisse pas faire par un non-juif, parce que si c'est un non-juif qui le fait, il ne pourra pas faire la bracha. Bah, au chata Hashem, Hashem qui déchaîne mes otaves et tzivanu, la sot maquet. Tu as le devoir de faire ce qu'on appelle une barrière, de faire un grillage, de faire une protection pour protéger tout ton entourage. On ne va pas dans les détails qui c'est qui doit faire la prière, qui c'est qui doit faire la protection, etc. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ça, ça rentre aussi l'importance de faire attention à la santé et de faire attention à la guérison tout court. La Torah te dit que tu n'as pas le droit de pouvoir de te faire n'importe quelle chose qui peut te mettre en danger de manière directe. Par exemple, d'être à côté d'un malade qui a des maladies contagieuses. De boire de l'eau que tu crains qu'il y a dedans des produits qui te mettent en danger ou des eaux qui sont contaminées. D'où vient l'idée? Derrière, tu as dit que puisque Dieu nous a donné la vie, nous a donné le corps pour utiliser comme il faut à bon escient, apprendre la Torah, faire les mitzvot de servir Dieu, on a le devoir de faire attention à la santé. Pareil, tu n'as pas le droit de te causer du mal ou de te faire une blessure, même si tu ne vas pas subir de cette blessure. Sauf si tu le fais pour un but ou pour un point spécifique. Par exemple, opération esthétique. Chirurgie esthétique, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Alors tu as des gens qui pour eux ils ont un certain complexe, si jamais le nez n'est pas aussi rond qu'il doit être, ou il n'est pas aussi pointu qu'il doit être, ils ne peuvent pas se voir vivre. Des gens qui sont à un tel niveau. Je parle aujourd'hui des gens qui font tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas la question, est-ce que la halakha permet ou pas. C'est moi, est-ce que tu as le droit de faire par exemple un trou dans les oreilles pour mettre des boucles d'oreilles? Ou bien est-ce que tu as le droit de faire des prises de sang? Donc tous ces critères, la Torah te permet, quand il y a pour un but particulier, quand il y a juste se faire du mal pour se faire du mal, on n'a pas le droit. D'où est, quoi est la source de cette halakha? La base, elle est que, parce que la Torah considère que ton corps ne t'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné à toi, c'est « je fais ce que je veux avec mon corps ». Et de la même manière que tu n'as pas le droit de faire du mal et de causer du tort au corps de quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de te causer du tort à quelque chose qui t'appartient. Ton propre corps, ça c'est Shulchan Aruch, l'ilchot nizkei kuvenefesh seif dalet. D'ailleurs, dans ça, ça rentre aussi le critère de fait d'écouter tout ce qui sont les autorités sanitaires quand il y a une épidémie ou quoi que ce soit. Rentrons maintenant dans les différents détails que la halakha te dit par rapport à manger. Et est-ce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui font directement quelque chose du mal au corps ou à l'âme? Parce que la halakha te dit les choses qu'on n'a pas le droit de faire mishum sakana à cause de danger. Quelles sont les choses qui sont interdites mishum sakana? Il y a trois grands critères mishum sakana à cause d'un danger. La première catégorie, c'est les choses qu'aujourd'hui tout le monde comprend que ça met quelqu'un en danger. Par exemple, on va te dire, va mettre une pièce dans la bouche. Les gens disent qu'une pièce, il y a des microbes, etc. Le deuxième critère, c'est des choses qui sont des maladies spécifiques ou dangereuses. Maintenant, ça se peut qu'ils ne sont pas considérés comme un danger par rapport à la connaissance médicale qu'on a aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un certain moment que c'était un danger aujourd'hui, non. Mais même eux, on va les interdire, comme dit le Khatam Sofer. Puisque une certaine période, on les a interdits, on les interdit aussi aujourd'hui pour rentrer dans les détails. Et le troisième critère, c'est quoi? C'est des choses qui sont interdites par des raisons mystiques. Qu'on n'a pas de raison pourquoi c'est interdit. Que la halakha n'a pas donné de raison pourquoi. Par exemple, de ne pas laisser du manger découvert, de ne pas laisser du manger sous le lit, de ne pas manger un oignon ou un œuf qui a été épluché la nuit, que la nuit est passée. Des choses qu'il n'y a pas une raison. Il faut demander à un médecin qui t'explique pourquoi. Il n'y a pas de raison. La halakha, elle a dit. On ne cherche pas à comprendre. Regardons par rapport au premier critère qui était tout ce qui est l'hygiène et tout ce qui est les infections. Les chachamim étant interdits de faire n'importe quelque chose qui n'est pas hygiénique, qui peut transmettre des maladies. Par exemple, mettre de l'argent dans la bouche, qui passe de main en main. Ou mettre du manger dans des endroits qui ne sont pas propres. Ou par exemple, de boire des restes qui sont restés dans le verre, qui appartient à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre a vu là-bas, de boire aussi de ce même verre. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi, c'est du common sense, c'est du sens commun. Mais la halakha te dit, c'est quelque chose qui met une personne en danger. Deuxièmement, les chachamim vous ont interdit de faire n'importe quelle chose qui peut t'amener à différentes maladies. Par exemple, on n'a pas le droit de manger du poisson et de la viande ensemble, ou bien un poisson qui a été cuit avec de la viande, marcher sur des peaux d'œuf, pas d'explication. Pourquoi? Parce que ça peut t'amener à la lèpre. Enfin, dire aujourd'hui, ça ne mène pas à la lèpre. C'est ce que la halakha dit. Pareil, Une des choses que le Shulchan Aruch te dit, par exemple, dès que tu te réveilles le matin, ne pas se lever directement d'un mouvement assis à directement debout en sautant d'un instant. Prendre quelques instants que toute la circulation reprend son rythme normal pour pouvoir passer d'un statut à l'autre. Pareil, les Chachmim étaient capables de faire n'importe quelle chose qu'ils ont une influence mystique négative qui pourrait te causer du tort matériellement ou spirituellement. On a dit par exemple la fameuse chose que la halakha répète sans arrêt, ne pas manger des oignons ou de l'ail cru qui ont été épluchés toute la nuit. Et comment on évite ce problème? Par ça que ou on n'épluche pas en entier, ou par ça qu'on mélange quelque chose d'autre à l'intérieur. Par une salade ou quoi que ce soit, si tu as mis du sel à l'intérieur ou quelque chose d'autre, tu n'as aucun problème. Pareil, un œuf qui a été épluché pendant la nuit, qui a passé la nuit, qu'on n'a pas mélangé avec autre chose, on n'a pas le droit de le manger le lendemain, c'est considéré du poison. On n'a pas dû manger sous le lit. Parfois, certains te disent, même s'ils sont enfermés dans des boîtes, ils sont enfermés dans des sacs, si tu as dormi sur le lit où il y a dû manger dedans, on ne mange pas le manger qu'il y a sur ce lit. Il n'y a pas de raison logique derrière. Là, la chat te dit, c'est pareil. Ça rentre dans les critères de toutes ces choses que la chat dit, il faut faire attention parce que ça met une personne en danger. Passons maintenant à tout ce qui est la médecine. Dans le cas contraire, quelqu'un qui a été blessé et quelqu'un qui a une maladie, même une maladie spirituelle, on va dire psychique, pas forcément une maladie physique, il a le devoir d'aller voir un docteur et de faire ce que le docteur lui demande. Et contrairement à ce que les gens s'imaginent parfois, non, je priais au bon Dieu, c'est la médecine. Non, le même bon Dieu qui t'a demandé de prier, le même bon Dieu t'a demandé d'aller voir le docteur et de faire ce que le docteur te demande. Dans n'importe quel cas où il y a un danger de vie, ou une crainte que la situation peut amener quelqu'un à un danger de vie, la halakha te dit que tu dois faire le docteur, tu dois faire ce que le docteur te demande, même si ça veut dire prendre des médicaments non kachers, profaner Shabbat, faire tout ce qu'il y a pour sauver la vie d'une personne, ça passe avant toute la majorité des autres interdictions. Si la situation n'est pas si grave que ça, et la manière de guérir, ça demande de faire des choses qui pourraient éventuellement t'amener à faire une interdiction, ça serait bien de voir avec un rabbin pour demander quelles choses je peux faire ou je ne peux pas faire. Par rapport, en fonction de la gravité de la maladie, par exemple, ou si ce n'est pas la gravité de la maladie, la gravité de ce qu'on appelle la gravité de la maladie ou la gravité de l'interdiction. On a l'habitude, par exemple, quand on fait des réparations dans une maison, de jamais fermer un endroit qui était comme une fenêtre ou une porte ou une ouverture. Si, par exemple, on veut fermer une fenêtre ou fermer une porte, on a toujours, tu peux tout fermer, mais laisser un trou à la taille d'un tuyau. Différents critères qui sont dans la halakha parce que considère que c'est des choses qui amènent quelqu'un en danger. Le Rabbi Rachab, il parlait de ça longuement, le Rabbi précédent, il parlait de ça aussi longuement. Pourquoi on ne croise pas les doigts? On peut rentrer comme ça dans les différents critères. Tu as tout un dossier dans le Shulchan Aruch, tu m'arrêtes à vous, Vanapesh. Ok, rentrons maintenant par rapport à un docteur. Dans la Parasha Mishpatim qu'on va lire cette semaine prochaine, Parasha Mishpatim, on parle de Chovel Bachavero, que tout celui qui blesse son ami, la Torah te dit, Verapo Yerapé, tu devras le guérir. Que le Chovel, celui qui a blessé son ami, de lui payer les frais de sa guérison. Viens le Chachamim dans la Gemara, Brachot, page 60, et de là on apprend la base, Mikan, Shenitna, Rechut, la Rofel, le Repot. De là, la Torah apprend qu'on a donné la permission à un docteur de guérir. A priori, un docteur aussi, il fait du mal. Il va piquer, il va couper, peu importe. Mais la halakha te permet. Donc, le Shulchan Aruch, on te dit clairement, un malade n'a pas le droit de s'appuyer sur le miracle. Il doit faire tout ce qu'il faut, naturellement parlant, pour appeler un docteur qui le guérisse. Et on sait combien de chassidim et là, beaucoup de gens ont été guéris par des médecins. Celui qui évite d'aller voir un médecin, il fait deux choses mauvaises. Premièrement, il s'appuie sur un miracle quand il y a un danger. Et ça même, ça va faire qu'on va se rappeler de ses erreurs quand il est tombé malade. Et deuxièmement, ça montre qu'il est tellement orgueilleux et qu'il s'appuie, qu'il est tellement digne de soi que Dieu va l'aider, qu'il pense qu'à ce moment-là, Dieu va venir l'aider, Dieu ne va pas l'aider. Dans Divrei Hayamim, chapitre 16, c'est écrit le roi Asa, quand il était malade, il n'est pas parti voir Dieu, il est parti voir les docteurs. Maintenant, a priori, c'est pour montrer comme s'il a fait quelque chose de mal. Mais vient le bar dans Shulchan Aruch, il dit non. C'était à l'époque pour dire qu'il a oublié de parler à Dieu aussi. Notre devoir, c'est de demander à Dieu, de prier à Dieu, mais aussi de s'assurer que Dieu va nous envoyer la guérison par le meilleur docteur. Le meilleur exemple qu'on a, c'est Rambam, Maïmonide. Donc, lui-même était docteur dans le Pirush HaMishnayot, dans le Psachim, chapitre 4. Il te dit que ceux qui disent que suivre ce que les docteurs nous disent de faire, c'est contradictoire à avoir bitachon en Dieu. C'est une idée tordue, une idée bête et une idée idiote. Il fait, si quelqu'un il a faim, il est parti manger du pain pour manger, pourquoi il est parti manger du pain? T'as faim, demande à Dieu, tu vas plus avoir faim. Il fait la même chose. Est-ce que quelqu'un qui est parti se faire guérir par un docteur on va dire qu'il a oublié son bitachon en Dieu parce qu'il est parti se faire guérir par un docteur. Le même bon Dieu qui t'a demandé d'avoir confiance en Dieu, t'a demandé d'aller voir un docteur. Et Rambam te dit, on les appellera des idiots ces gens-là. Quand tu parles comme un... Il fait de la même manière que je remercie à Dieu pendant que j'ai mangé, qu'il m'a donné à manger, que grâce à ça j'ai plus faim et comme ça je peux vivre. Je remercie à Dieu de m'avoir donné un docteur ou un médicament pour enlever ma maladie. Et dans la chaîne de la chassidoute, le langage de la chassidoute, l'abondance, bien sûr, c'est une bracha de Dieu. Mais Dieu, il a décidé d'envoyer cette abondance par les lois de la nature. Et les lois de la nature, ça dépend de chacun d'entre nous de le faire au maximum. Voilà pour aujourd'hui. Le cours en replay sur letora.fr. Si Dieu veut, la semaine prochaine, comme je dis, on continuera. Après qu'on a parlé de la médecine, on verra quel est notre devoir de sauver la vie. Don d'organes, don de sang, combien, quand, quoi. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.